Bonjour et bienvenue à Espérance aujourd'hui. Je m'appelle Ian.
Et je m'appelle Hélène. Nous sommes heureux de vous retrouver.
Espérance aujourd'hui est une émission de réflexion biblique. Écoutons ce que déclare la Bible.
Voyez combien le Père nous a aimés pour que nous puissions être appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Mes chers amis, dès à présent, nous sommes enfants de Dieu.
Voici donc le sujet de notre série de discussions actuellement. Que signifie être un enfant de Dieu? Et comment vivre en tant qu'enfant de Dieu?
Ian s'entretiendra avec André afin d'approfondir notre compréhension sur cette vérité si précieuse.
Bonjour André, et merci de vous joindre à nous pour parler de ce thème biblique si important.
Merci Yann et bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons commencer à parler des privilèges et des responsabilités de ceux qui sont devenus par la grâce enfants de Dieu.
Et par où voulez-vous commencer?
Dieu, en tant que Père, prend soin de ses enfants. Écoutons une lecture biblique qui servira de point de départ à notre discussion. Elle se trouve dans l'Évangile de Matthieu, chapitre 7, versets 9 à 11.
« Qui de vous donnera un caillou à son fils, quand celui-ci lui demande du pain? Ou bien, s'il lui demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? Si donc, tout mauvais que vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père céleste donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent ?»
Jésus emploie le raisonnement suivant. La plupart des pères s'occupent suffisamment bien de leurs enfants. Or, s'ils accomplissent ainsi leur mission, nous pouvons être certains que Dieu, notre Père céleste, le Père par excellence, prendra soin de nous, nous qui sommes ses enfants. La plupart des pères souhaitent le meilleur pour leurs enfants. Dieu, à plus forte raison, va toujours désirer notre bien. La majorité des pères essayent, tant bien que mal, de préparer leurs enfants à l'âge adulte. Dieu, en tant que Père céleste, nous accompagne vers une plus grande maturité spirituelle. La plupart des pères pourvoient aux besoins de leurs enfants, même s'ils le font de façon imparfaite ou maladroite. Dieu, quant à lui, a le pouvoir de prendre soin de nous et il le fait avec compassion et patience.
Merci André, c'est merveilleux de constater à quel point Dieu est un Père parfait.
Effectivement, et les propos de Jésus visent à nous remplir de confiance. Mais revenons aux paroles que j'ai déjà mentionnées plusieurs fois. Quels sont nos sentiments lorsque nous nous approchons de Dieu? Est-ce un sentiment de peur qui nous domine ou une confiance sereine? Malheureusement, dans certaines familles, les enfants tremblent devant leur père et ils n'osent pas s'exprimer devant eux. Jésus veut nous convaincre. Dieu le Père inspire la confiance et non la peur. Nous pouvons nous approcher de lui et lui exprimer librement les pensées de nos cœurs.
Il s'agit là d'un privilège formidable.
Oui, et je me demande si nous osons en jouir suffisamment.
Oui, nous devons prier pour que vos propos nous aident à surmonter toutes nos hésitations, nos craintes, afin que nous puissions pleinement profiter de la relation d'amour que Dieu accorde à tous ses enfants. Toutefois, ces propos suscitent une question importante. Dans le texte lu, Jésus déclare que notre Père céleste donnera de bonnes choses à ceux qui les lui demandent. Mais que dire alors à ceux qui prient et que le Seigneur ne semble pas exaucer?
La première remarque à faire est celle-ci. Tout bon père ne donnera pas forcément à ses enfants tout ce qu'ils lui demandent. Car un enfant ne sait pas forcément ce qui est le meilleur pour lui et il peut demander des choses qui représentent pour lui un danger. Il en est de même lors de notre relation avec Dieu. Nous pouvons lui faire des requêtes qu'il ne nous accordera pas forcément s'il estime qu'elles ne serviront pas notre intérêt. Le texte biblique, lu, évoque le cas où un père ne donnera jamais à son enfant une pierre, ni plus un serpent, si celui-ci demandait du pain. Ces exemples peuvent représenter toute requête inutile ou impure. En effet, Dieu, notre Père, peut ne pas nous exaucer. S'il estime que nous n'avons pas besoin de ce que nous lui demandons, et ceci d'autant plus si nous risquons à cause de cette chose de tomber dans l'impureté et de nous mettre à pécher.
Merci André. Toutefois, nous pouvons penser à des situations où, en tant que chrétiens, nous prions pour des sujets qui nous semblent bons, et pourtant nous ne sommes pas autant exaucés. Pensons par exemple aux chômeurs qui prient pour un emploi sans en trouver, aux malades qui demandent la guérison sans autant être exaucés. Pensons aux pauvres qui prient pour disposer de moyens pour nourrir leur famille, mais qui semblent toujours plus dans l'endettement ou la disette.
Il est vrai que cette question peut troubler beaucoup de chrétiens. Il n'est pas facile d'y répondre dans le temps qu'il nous est accordé, mais je voudrais offrir quelques pistes de réflexion. Ma première pensée est celle-ci. Ce que nous croyons être bon, le meilleur pour nos vies, ne correspond pas forcément à ce que Dieu pense être bon pour nous. Nous avons tendance à nous préoccuper des problèmes physiques ou matériels. Dieu, quant à lui, a à cœur notre santé spirituelle. Il veut s'assurer de notre progrès vers une plus grande maturité spirituelle, vers une plus grande qualité de notre foi, car ces choses revêtent une valeur éternelle, tandis que notre confort ou toute réussite dans la vie ne dureront pas à jamais. De plus, la Bible affirme que la présence de la souffrance et des épreuves sont là pour nous forger et nous aider à croître sur le plan spirituel. Citons Romains chapitre 5, versets 3 et 4 à titre d'exemple. « Nous tirons fierté même de nos détresses, car nous savons que la détresse produit la persévérance. La persévérance conduit à la victoire dans l'épreuve, et la victoire dans l'épreuve nourrit l'espérance. » Autrement dit, à travers nos épreuves, nos afflictions, Dieu désire nous parler, il veut qu'à travers elles, nous grandissions dans la foi. C'est pour cette raison que Dieu, en tant que Père, peut retarder une réponse à nos prières ou nous répondre d'une manière qui ne correspond pas exactement à nos attentes.
Il me semble que dans de telles situations, la tentation de douter de l'amour de Dieu peut nous assaillir.
Ceci est vrai, et c'est exactement ce que le diable voudrait nous faire croire. Lorsque nous nous trouvons dans les situations critiques, plaçons notre confiance en Dieu. Gardons la conviction qu'il connaît toutes choses mieux que nous-mêmes et que, malgré les apparences, malgré ces temps de détresse, il s'occupe bien de nos vies.
Merci André de nous avoir éclairé sur ces points.
Merci. Mais avant de vous quitter, je voudrais faire une dernière remarque. Il peut nous arriver d'être tellement préoccupés ou déçus de ne pas obtenir ce que nous demandons à Dieu que nous en négligeons notre relation avec lui. Imaginez alors un enfant refusant de jouer avec ses cadeaux de Noël ou n'exprimant aucunement le besoin de passer du temps avec son père. Son attitude fait de la peine et de plus, il se prive de l'essentiel. Or, Dieu se donne à nous en tant que père. Que possédons-nous de plus beau, de plus merveilleux? Peut-être que parfois Dieu nous prive de certaines choses pour que nous passions plus de temps dans la recherche de sa présence. En perdant ce que nous croyons être important ou essentiel, nos regards se dirigent vers celui qui est le Tout-Puissant, de celui qui règne éternellement. Dieu est notre Père et il veut que nous apprenions pleinement à jouir de notre relation avec lui.
Nous continuons dès à présent notre série de courtes méditations bibliques dont le sujet porte sur la personne de Jésus-Christ, tel qu'il nous est présenté dans le livre de l'Apocalypse.
Le livre de l'Apocalypse fut écrit par l'apôtre Jean. Le but de son livre est d'encourager les chrétiens à tenir ferme quand confrontés à la persécution et la souffrance. Hélène va lire dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 1, les versets 12 à 16. Ensuite, notre invité Jean-Luc nous fera part de quelques réflexions inspirées sur ce texte.
Je me retournai pour découvrir quelle était cette voix. Et l'ayant fait, voici ce que je vis. Il y avait 7 chandeliers d'or, et au milieu des chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un homme. Il portait une longue tunique, et une ceinture d'or lui entourait la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs, comme de la laine blanche. Ses yeux était comme une flamme ardente et ses pieds étincelaient comme du bronze incandescent au sortir d'un creuset. sa voix retentissait comme celle des grandes eaux. Dans sa main droite, il tenait 7 étoiles, et de sa bouche sortait une épée aiguisée à double tranchant. Son visage était éblouissant, comme le soleil quand il brille de tout son éclat.
Aujourd'hui, nous allons fixer nos regards sur la personne décrite à travers ces versets, afin d'en comprendre le sens. Dans le livre prophétique de Daniel, l'Éternel révèle sa décision de donner toute autorité et toute domination à un personnage décrit en des termes similaires à ceux utilisés ici par l'apôtre Jean. Autrement dit, l'Éternel confirme que Jésus-Christ est bel et bien l'envoyé de Dieu par excellence, le souverain de l'univers, l'éternel roi qui viendra un jour pour établir son règne parfait. L'ensemble de cette vision nous présente un être revêtu de gloire et de majesté, de puissance et de justice, un individu couronné de sagesse. Elle nous dépeint un souverain redoutable qui vient pour vaincre, qui intervient pour juger ses ennemis avec l'épée de la justice. Dans la suite du livre de l'Apocalypse, nous apprenons que le Seigneur Jésus brandit l'épée pour exercer la justice contre tous ceux qui s'opposent à lui, qu'ils se trouvent au sein de l'Église ou dans le monde. Sa venue est à redouter, elle est à craindre si nous nous entêtons à refuser son règne, si nous refusons de nous repentir du mal commis. Toutefois, si sa venue est à redouter par certains, d'autres y puisent une source d'espérance leur permettant de persévérer contre vents et marées. Aujourd'hui, en tant que chrétien, vous pouvez vous trouver confronté à des ennemis s'opposant à votre foi, qu'ils soient spirituels, démoniaques ou humains, que ce soit des individus ou des institutions. Alors, cette vision du Seigneur Jésus est porteuse d'espoir, car elle nous rappelle qu'il est celui qui balayera nos ennemis. Il triomphera de leurs projets infâmes. Aujourd'hui, en tant que chrétien, vous subissez peut-être l'injustice, vous ployez sous l'oppression, la violence et la méchanceté. Alors, cette vision glorieuse du juge éternel est porteuse d'espoir. Elle nous apporte la conviction qu'un jour le Seigneur Jésus rétablira la justice. Il redressera les torts commis. Constatez-vous qu'au sein des églises, certains abusent de leur pouvoir, d'autres encouragent l'immoralité ou encore propagent de faux enseignements. Soyez rassurés, le Seigneur Jésus vient pour purifier son Église. Ceux et celles qui persistent dans le mal subiront l'épée de sa justice.
Merci Jean-Luc. Nous retrouverons nos deux invités pour la suite de ces séries lors de notre prochaine émission. En attendant, nous vous disons au revoir.
Au revoir et que Dieu vous bénisse.